À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec...
Françoise Huguier, photographe éventuellement, mais très curieuse.
Les deux vont de pair. Premier épisode, en captivité à 8 ans. Françoise Huguier, bonsoir.
Bonsoir.
Photographe et curieuse, mais photographe pas n'importe laquelle, puisque vous êtes, et c'est moi qui le dis, hein, c'est pas vous, l'une des plus grandes photographes françaises vivantes. Une globe-trotteuse. Une globe-trotteuse qui a sillonné la planète avec son appareil photo, de la Sibérie au Mali, en passant par le Japon, et je n'en donne que 3. Nous avons 5 émissions pour arpenter le monde avec vous. Une grande curieuse, effectivement, vous l'avez dit vous-même cette fois. Une grande curieuse dont l'œuvre est hétéroclite, même si on peut dégager quelques traits saillants. Les femmes, les intérieurs, les corps, plein d'autres choses encore. La curieuse, d'ailleurs, ça a été un des titres d'une exposition en 2020 qui rassemblait une sélection d'objets insolites et poétiques que vous avez glanés dans le monde entier et qu'on peut voir là où nous sommes ici, chez vous, à Romainville, dans cette pièce où sont, je ne dirais pas rangés, mais où sont disposés sur les étagères un certain nombre de ces objets. Vous avez été journaliste au quotidien Libération pendant une quinzaine d'années. Vous avez été photographe de mode dans les grandes années pour Vogue, pour Marie Claire, pour le New York Times Magazine. Vous avez été photographe de plateau, notamment sur les films de Claire Denis. Vous avez été l'ami du grand critique du cinéma Serge Danet. Vous avez fondé la Biennale de photographie de Bamako, etc., etc. Pour cette première émission, Françoise Huguier, j'aimerais qu'on revienne sur un événement fondateur que vous avez raconté plusieurs fois. Vous l'avez raconté dans un livre paru chez Actes Sud, J'avais 8 ans, qui est un livre de photographie et de texte. Et puis dans votre autobiographie, éditée chez Sabine Vespizer, Au doigt et à l'œil. Mais avant de revenir sur cet événement fondateur, je voudrais vous demander quelque chose à propos de vos origines. Parce que vous avez des origines qui sont pas courantes, peu connues du grand public, des origines bigoudaines. On ne connaît des bigoudins que la haute coiffe que portaient traditionnellement les habitantes de cette région jusqu'au milieu du XXe siècle.
Il en reste une. Il en reste une qui a 96 ans, qui n'est pas encore morte. Et malheureusement, elle n'a pas voulu que la photographie. Mais c'est vrai que j'avais fait un sujet où Libération m'avait demandé, c'était pour des élections municipales, de faire des photos dans la région. Donc j'avais été, et j'ai une photo qui aimait beaucoup Libération, qui était une bigoudaine avec l'Humanité.
Elle brandissait l'Humanité.
C'est ça.
C'est une ouvrière de conserverie.
De conserverie, exactement.
Militante communiste.
Militante communiste, parce qu'effectivement, dans les conserveries, il y avait pas mal de militants communistes. Donc elle a fait, parce que quand j'ai ramené la photo à Libération, ils étaient sidérés, quoi, parce que bon, ils connaissaient pas l'histoire, quoi.
Qu'est-ce que vous avez gardé, vous, de ces origines bigoudaines, à part quelques photos?
Quand ma mère est décédée, elle a laissé plein de lettres et elle avait marqué les brûler à ma mort. Bon, j'ai pas fait. C'est pas bien, mais j'ai pas fait. Et là, j'ai connu toute l'origine de ma famille, parce que du côté de ma mère, c'était des aristocrates, Mofra du Châtelier, et qui avait un manoir à Pont-l'Abbé.
On est en Bretagne, hein, on l'a pas encore dit, mais
oui, en Bretagne, soir, on est en Bretagne. Oui. C'est la vraie Bretagne, hein. Oui. Oui, c'est la vraie Bretagne. Et on est toujours colonie, hein, vous savez ça. Oui. Je vous expliquerai pourquoi. Et donc effectivement, dans ces lettres, c'est que mon père n'était pas aristocrate, n'était pas noble, et était roturier, comme disait mon grand-père. Donc mon grand-père a refusé le mariage entre ma mère et mon père pendant des années. Et donc moi j'ai toutes les lettres, entre les discussions entre mon grand-père et mon père, et c'est extraordinaire, parce que c'est vraiment toute une époque, hein. C'est avant la guerre de 40, bien sûr, parce que mes parents sont mariés en 35, mais ça a commencé en 1930. Et ça, c'est absolument extraordinaire. Et quand mes parents se sont mariés, près de Paris, là, chez des cousins, mon grand-père a envoyé une caisse en bois avec du foin, comme cadeau de mariage. Et eux, j'ai le faire-part de mariage, et les parents de ma mère n'y sont pas. C'est quand même très, très rare, quoi, à l'époque. Donc, c'est comme ça que j'ai connu toute l'histoire, parce que mon père et ma mère ne nous racontaient pas ça, hein. Donc, moi, je l'avais vaguement su par ma mère, mais pas vraiment. Et donc, c'est par ces lettres que j'ai tout su, quoi.
Et vous êtes né en 42?
Je suis né en 42.
Et avec vos parents, vous êtes parti à l'âge de 3 ans?
Oui, parce que...
En Indochine française.
Oui, alors, mon père est arrivé en 1930 et ma mère en 35. sur une plantation de caoutchouc, parce que mon père travaillait pour une société qui s'appelait Les Terres Rouges. Il était donc ingénieur et il dirigeait des plantations de caoutchouc. Donc les Japonais sont arrivés, donc mon père n'a pas voulu rester. Donc il a pris un bateau, donc Singapour, le détroit de la Songe. Ils ont été arraisonnés en Afrique du Sud, parce qu'évidemment, les Français étaient considérés comme des fascistes, parce que c'était Pétain. Hein. Et puis, au bout de 15 jours, on les a mis dans un camp, au bout de 15 jours, on les a libérés. Et ils étaient avec mon frère et ma sœur, qui sont, eux, nés à Saigon. Et ils sont arrivés au Maroc, puis après au Portugal, puis après en France. Et moi, je suis née en France. Et mon père dit toujours, t'as été conçu dans le détroit de la Sonde. Plaisanterie, hein. Et donc moi je suis née en France et puis ben les Japonais sont partis et mon père est reparti à peu près 3 mois avant nous et nous on a pris le bateau avec ma mère pour rejoindre l'Indochine. Il fallait 3 mois de bateau à peu près à partir de Marseille.
Donc on est. Il dirigeait une plantation d'EVA.
EVA oui. Donc c'est des plantations industrielles, 40 000 hectares. Hein. Enfin, les plus petites plantations. C'est énorme. Hein. Donc, on plante les arbres. Alors, c'est des plantations industrielles. Et en fait, le latex, c'est la sève, hein, coule qu'au bout de 7 ans. Donc, il donne qu'au bout de 7 ans. Alors, c'est assez compliqué comme processus. Et puis, tous les jours, bah, effectivement, la sève... Alors, ils font une espèce de petite entaille. Et le latex...
Ils appellent les seigneurs avec
les seigneurs,
un A.
C'est
ils
ça,
saignent
les seigneurs.
L'arbre.
Il saigne l'arbre, c'est ça. Il saigne l'arbre. Donc mon père, alors évidemment, mon père, il saignait pas l'arbre. Et il y avait souvent sur les plantations, la dernière plantation qu'il dirigeait, il y avait 4000 seigneurs, qui étaient souvent des gens au Cambodge, hein, il a fini au Cambodge. C'était souvent des gens qui venaient du nord du Vietnam, c'était pendant la colonisation de l'Indochine, du nord du Vietnam. Parce que quand c'était des Cambodgiens, dès qu'ils avaient leur salaire, ils revenaient pas. Donc, c'est pas moi qui le dis, c'est mon père. Et donc, ils recrutaient au nord Vietnam, du côté d'Hanoï, et c'était des Vietnamiens. Alors, il y en avait beaucoup à la fin qui étaient très pro-Ho Chi Minh.
C'était pendant la guerre d'indépendance.
Pendant
la guerre d'indépendance, donc il y avait beaucoup d'insécurité pour les colons, pour les Français.
Pas au début, mais c'est vrai que quand on est revenu, il y avait beaucoup de...
C'est ça, quand vous étiez enfant, vous?
Quand j'étais enfant, parce qu'on était en pension à Dalat et on y allait en convoi militaire avec ma mère. Et un jour, je m'en souviens très bien, et un jour, ben c'est avant qu'on soit prisonnier, un jour donc en convoi militaire, puis le convoi s'arrête. Donc on descend, puis moi comme je suis curieux, je m'approche, et ma mère demande comment ça se fait qu'on s'arrête. Alors ils disent, ben il y a eu un incident. Il dit à ma mère, ben venez voir, et il y avait des têtes coupées comme ça qui étaient contre les arbres. Voilà. Donc ça, je m'en souviens très très bien de ça.
En dehors de ça, Françoise Huguier, vous vous souvenez de quoi dans cette maison avant vos 8 ans? D'une vie plutôt joyeuse et insouciante, ben, ou justement d'un sentiment de menace?
Non, c'était agréable. Non, c'était très agréable parce que moi je vois, avant que je sois prisonnier avec mon frère au Cambodge, on avait quand même un éléphant, on avait des fans... On avait des pans, c'était très agréable.
Et puis un soir, tout a basculé.
Et puis un soir, bah,
1950,
la, 1950,
vous avez donc 8 ans.
La plantation d'à côté a voulu faire une fête dans ce qu'on appelait le cercle des planteurs, où il y avait tennis, piscine, billard, bibliothèque, etc. Ce soir-là, donc mon père voulait pas y aller parce que nous déjà sur la plantation. Dans l'étape de nuit de mon père, il y avait des grenades, hein, parce qu'on était surveillés déjà. Et mon père, qui se doutait de tout, donc il voulait pas qu'on y aille. Et puis ma mère lui a dit, écoute, on a deux amis de Saigon qui viennent, ce serait quand même bien qu'on y aille. Donc c'était à 30 kilomètres. Donc on y a été, et puis la soirée a commencé. Et nous, aux enfants, on nous a projeté la dernière cartouche, c'est un western. Et dès qu'il a commencé à avoir les coups de feu, je l'ai là le film, hein, je l'ai retrouvé. Et les coups de feu, ça a commencé à péter. On a été encerclés, personne n'était armé, et on a été encerclés, et ça a commencé à tirer de tous les côtés. Donc moi je me suis caché derrière le bar, mon frère dans la cuisine, ma sœur dans les cabines de bain. Et puis, ça tirait, ça tirait. Mon père est allé chercher Et évidemment, l'armée française qui est jamais là, hein, quand il faut. Et il n'y a que moi qui le dis. Hein. Enfin, je me permets de le dire. Donc, du coup, ça a duré très longtemps. Tout d'un coup, ça tirait plus. Et puis moi, je suis sortie du bar et j'ai vu 14 morts avec le sang. C'est pour ça que quand il y a eu le Bataclan, ça m'a fait penser à ça. Et mon frère est sorti de la cuisine aussi. Et il y avait 3 adultes aussi, dont une femme. Et donc là, ben, on était les derniers. Et donc, ils nous ont ramassés.
C'est qui, ils ?
Les Viet Minh.
Donc, c'était des mouvements indépendantistes. Il y en avait des Vietnamiens et des Cambodgiens.
Et des Cambodgiens.
Avec le mouvement Issarak également.
Et le mouvement Issarak aussi. Et donc, qui était aussi pro-Ho Chi Minh. Donc, parce qu'en fait, Ho Chi Minh avait l'idée de faire... d'aller jusqu'au Cambodge pour faire la piste Ho Chi Minh, quoi, qu'il n'a pas réussi à faire, mais c'était l'idée. Et donc ça commençait à ce moment-là, au Cambodge, qui était quand même plus calme. C'était un protectorat, le Cambodge, hein. Donc c'était un petit peu plus calme. Bon, bref, et ma mère, elle a trouvé ma sœur, elle nous a cherchés, et on lui a dit, mais non, deux autres enfants sont partis. Mais ta fille, elle est dans les cabines, donc elle est chercher ma sœur. Elle l'a mis, alors elle a embarqué plein. Ma mère, c'était un sacré numéro, parce que elle a embarqué tout le monde dans une. Bah, à l'époque, c'était des Citroën de 15. Hein. Et à côté d'elle, il y avait une femme avec son bébé. C'est une histoire absolument incroyable. Et elle a sorti malgré les tirs. Et quand elle est arrivée à la maison de direction de la plantation, pas la nôtre, mais la voisine. La femme baissait la tête. En fait, elle avait reçu une balle, pas le bébé. Et quand j'ai sorti mon livre, c'est le bébé qui m'a appelé. Il m'a dit, c'est moi. Et on s'est revus, on a beaucoup parlé, il avait plein de photos, parce que son père était l'assistant de mon père. Donc, c'est assez drôle, cette histoire-là, parce que... Donc, bref, on a été embarqués, donc les 3 adultes, mon frère et moi. Alors, on a marché à travers la plantation, qui est quand même très très long. Et puis, après, ils nous ont mis dans des marais. Alors, les marais, c'est terrible, parce qu'il y a des sangsues. Les sangsues, c'est terrible. Hein. Parce que ça s'accroche et il faut brûler. Parce que ça pompe le sang. Et puis, on est monté sur un bateau. Et là, au bout de quelques temps, enfin très peu de temps, au bout d'une heure, il y avait un autre bateau qui est venu, ils ont embarqué les 2 adultes et qu'ils ont envoyé à Saigon, et eux, ils ont été vraiment torturés. Ils sont sortis un peu avant nous. Et nous, on est partis avec la femme, donc, qui était la femme du médecin militaire, et mon frère et moi. Et on est arrivés à une mission, et à la mission... Ben, le missionnaire a dit quand même, c'est pas bien, etc. Enfin, essayez de faire quelque chose. Donc, ils ont dit, la femme, parce qu'elle avait des enfants en bas âge, on va la libérer et puis on va garder la petite fille.
C'est-à-dire vous ?
Moi. Et mon frère a dit, il n'en est pas question. Donc, nous, on est restés tous les deux. Et après, on a continué. Et puis, après, on a passé une nuit dans un village. Et après, ben, on a commencé à marcher dans la forêt.
Dans la jungle.
Alors, parce que maintenant, c'est plus vraiment la jungle, puisque j'y suis retourné.
Mais à l'époque,
comme vous le savez, mais à l'époque, c'était la jungle. Et puis, ben, les mygales, les serpents, les machins, les mygales. Et puis, alors, surtout, on est arrivé au camp. Enfin, le camp, c'était que des constructions en bambou. Et avant d'arriver dans le camp, il y avait des trous avec des pics en bambou. Donc il fallait les éviter parce que c'était les Viet Minh qui les mettaient justement pour pas que les gens arrivent dans le camp. Mais ça pouvait être.
Vous auriez pu vous empaler, vous voulez dire.
On aurait pu s'empaler, surtout si je m'étais sauvée, quoi. Donc, et comme moi je faisais un peu la faux folle, j'étais la seule petite fille. Hein. Et donc il y avait la femme du commissaire politique. Et puis tous les matins, on avait des cours vietnamiens, cambodgiens. Et le commissaire politique avait fait des études en France. C'était un mec très intelligent. Et donc, il faisait les cours de maths et les cours de français, etc. Donc, on avait quand même école le matin, quoi.
Vous êtes resté 8 mois.
8 mois.
En captivité, hein, française.
On a fait un premier camp.
Avec votre frère, et vous vous en êtes sortis tous les deux.
Oui, alors ça, c'est un miracle. Parce que, alors, le pire, ça a été pour mes parents, parce que ma mère a passé son temps pour aller voir le gouverneur et les militaires à Saïgon, qui finalement n'avaient pas fait grand-chose. Et c'est grâce, en fait, on a été libérés, mais c'est grâce aux bouddhistes, enfin, aux prêtres bouddhistes cambodgiens, et notamment sur la plantation de mon père, il y avait une pagode, dont je parle quand je suis retournée. Et là, c'est grâce à eux, parce que garder des enfants, c'est pas bien. Et puis, mon père voulait absolument pas qu'il y ait des articles, des journaux, ben, il semble, l'a vu sur François, et ben, il y a François, et ils disent, il y a deux enfants de planteurs qui ont été prisonniers en Indochine. Mon père était furieux. Il voulait pas, ça c'est très bigoudin, il voulait pas qu'on en parle. Donc, mais ma mère, elle passait son temps à aller voir les gens et tout. On a fait des lettres aussi aux députés communistes de l'époque qui disaient on peut rien faire et tout. On a toutes les lettres. Moi, on a tout avec mon frère, on a tout gardé.
Et puis il vous faisait écrire des lettres aussi à
oui,
vos parents.
Oui, à mon frère surtout, qu'on les a.
Fausses lettres, disant que vous allez bien, que vous étiez bien traité. Bon.
Et puis, ils ont aussi...
Vous avez eu le paludisme aussi, vous?
Oui, moi j'ai eu deux fois le paludisme. On est sortis avec la gale. Heureusement, on n'a pas eu la dysenterie. Et puis mon frère, ça a été plus dur parce que mon frère...
Il avait 12 ans, votre frère.
Il avait 12 ans et il y avait des enfants soldats. Donc on lui a appris le maniement des armes. Pas moi, évidemment, j'étais une petite fille. Et puis à un moment, il a voulu se sauver. Enfin, parce qu'il y avait une rivière à côté. Donc il s'est dit, c'est peut-être le moment. Et en fait, ils l'ont rattrapé, ils l'ont pendu par les pieds. Voilà. Donc, ça a été, pour mon frère, je pense que ça a été plus dur que pour moi. Parce que moi, j'étais une petite fille, donc rigolote, quoi. Donc, voilà.
Vous voulez dire, on vous laissait un petit peu plus tranquille que votre
voilà.
Frère quand
oui.
Il essayait
d'enrouler. Moi, il y avait la femme du commissaire politique, donc moi, je mettais le couvert, j'aidais à la cuisine, etc. Parce que les femmes, nous, on sait faire que ça, quoi.
Pour ça que vous ne vouliez pas partir? Vous dites dans votre
biographie, oui, alors
à la fin
effectivement,
quand on vous a libéré,
le commissaire politique, oui, le commissaire politique dit bon, faites vos sacs, on va vous mettre dans une charrette et sous une couverture parce que il y a encore pas mal de risques d'être arrêté, donc pour aller jusqu'à la plantation et surtout à la pagode. Et moi j'ai dit ah non, je veux pas partir, donc il était furieux, donc il a mis mes affaires dans mon sac et hop dans la charrette. Voilà.
Françoise Viguier, c'est une histoire que vous racontez maintenant, hein, que vous avez écrite également, mais que vous avez occultée pendant très très longtemps. Et il a fallu 50 ans avant que vous retourniez, vous n'étiez pas obligé de le faire, hein, mais vous avez tenu à retourner au Cambodge. C'est une histoire occultée, mais en même temps, quand on lit et quand on vous entend, on remarque à quel point elle est omniprésente au sens où les souvenirs sont extrêmement précis. Vous vous souvenez des lieux, vous vous souvenez des dates, vous vous souvenez de là où vous étiez, comment vous étiez même vêtu, quand vous étiez pieds nus, quand vous aviez des chaussures. Enfin, vous vous souvenez des noms, vous vous souvenez des visages, vous vous souvenez de tout. Cet événement est resté intact, même si vous l'avez caché dans votre mémoire.
Ben, ce qui s'est passé, c'est quand je suis revenue, moi j'ai été élevée déjà en Indochine, chez les Augustines, qu'on appelle les oiseaux. À Dalat, et puis quand on est revenu, je suis retournée à Brunois, chez les Augustines, les mêmes religieuses.
Donc une pension religieuse.
Pension religieuse, oui, pensionnaire. Et là, moi je voyais, parce que j'avais 2 ans de retard, et je voyais toutes les petites filles de mon âge, enfin plus jeunes que moi, dans la même classe, qui jouaient à la poupée. Et moi je disais, je me foutais d'elle en disant, mais moi je joue pas à la poupée et tout... Parce que avant, elle disait ah bon, bah oui, je racontais que j'avais été prisonnière. Alors elle me disait t'es une menteuse. Et la responsable de la classe, la religieuse, m'a appelée et m'a dit Françoise, si tu parles de ça toute ta vie, tu feras rien. Et après, j'ai occulté complètement. J'en ai plus du tout parlé. Et j'en ai après avec Serge Danet. Serge m'a dit quand même, Françoise, tu devrais en reparler parce que. Même des amis comme Gérard Lefort, ils étaient au courant. J'étais journaliste à Libération. J'avais plein d'amis journalistes ou photographes qui n'étaient pas du tout au courant, parce que j'en parlais plus du tout. Et Serge m'a dit, tu devrais quand même y retourner et de faire quelque chose. Et c'est grâce à Serge, effectivement. Il devait partir avec moi et puis il n'a pas pu. Donc, voilà, moi, je suis parti 50 ans après.
En décembre 2003.
C'est
sur
ça.
Les traces de l'enfant que vous aviez été.
C'est ça, exactement.
C'est ce qui a donné votre livre, hein. J'avais 8 ans.
J'avais 8 ans.
Qu'est-ce que vous alliez chercher?
Bah, déjà, ma mère voulait y retourner. Alors, évidemment, comme elle avait un certain âge, on voulait pas. Mon frère va absolument pas y retourner. Et, moi, j'avais visité encore, mais quand j'étais toute petite, donc j'avais très envie. Et puis, après, je me suis dit, bon, j'avais l'intention de le faire, hein. Donc, j'avais tout prévu, les endroits et tout ça. Donc, j'ai retrouvé. Alors, en fait, quand j'ai fait les photos, en 50 ans après, donc, pour le livre, bah, j'avais pas prévu de faire un livre. Et il se trouve que j'étais presque en apnée. C'est-à-dire que je n'avais aucun sentiment. Aucun. Enfin, j'avais aucun ressenti. Rien du tout. J'ai vu la maison, j'ai vu la plantation.
Oui, parce que vous avez, c'est étonnant, mais vous avez presque quasiment tout retrouvé. Pas
j'ai
intact,
tout retrouvé,
hein,
oui.
Ça a beaucoup
vieilli. Et quand je suis arrivée à la pagode, il y a un endroit qu'on appelle la sala. C'est là où tous les vieux du village se retrouvent, les gens du village. Et là, tout d'un coup, je suis arrivée. Je n'avais pas dit qui j'étais, hein. Et il y a une dame qui est arrivée qui m'a dit c'est Françoise, mais j'étais sidérée. Et puis il y avait des photos de mes parents, parce que mon père aidait. Il y avait à la pagode, il y avait une école aussi, donc il aidait énormément. Donc ils avaient gardé tout ça. J'étais sidérée, quoi, sidérée.
Donc les gens que vous avez rencontrés, ils avaient entendu parler des deux enfants au
Évidemment.
Tâche. L'histoire s'était transmise.
C'était
ensuite.
Transmis, tout à fait.
Et il y avait une vieille femme qui vous a rapporté votre
poupée. Oui, alors qui m'a ramené une poupée en me disant c'est ta poupée. J'ai pas vraiment cru. Enfin, si, j'ai dit oui. Et quand je suis revenue, j'ai regardé l'album de famille. Effectivement, c'était la même poupée. Je sais pas si c'est cette poupée-là, mais en tous les cas, c'était une photo de l'époque. Oui, c'est ça. C'est assez drôle, oui. Et puis, à un moment, j'étais à un mariage cambodgien, et il y a un vieux monsieur qui est venu vers moi, qui m'a dit « j'étais le chauffeur de votre père ». C'est étonnant, hein. Ah non, non, c'est parfaitement étonnant.
Et là, ça, vous êtes resté en apnée, quand même? Même là?
Pas pour le chauffeur, non. Pas pour le chauffeur. Pour la poupée, moi. Oui, oui. Mais vous savez, quand on est photographe, souvent, on oublie plein de choses, hein, parce qu'on est sur la lumière, le cadrage, etc. On est fixé là-dessus, et finalement, tout ce qui se passe autour, tout ce qu'on a dans la tête, ça disparaît. C'est un peu ça, le métier de photographe. Hein.
Au final, c'était un voyage douloureux ou libérateur pour vous, Françoise Huguier?
Un peu libérateur. Comme j'en avais pas parlé, personne ne me croyait. Hein. Moi, j'avais des amis photographes qui me disaient « tu nous baratines ». Oui, ben oui, non.
Parce que c'est quand même une histoire
assez
dingue.
Et puis alors, souvent, par exemple, quand j'ai commencé à travailler pour les journaux, pour faire des documentaires, pas Libé, hein, évidemment, et les gens me disaient, mais tu crois que tu es capable de faire ça? Eh ben, je leur disais, bah, oui, je crois, parce que tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Mais je leur disais pas que moi. Je leur dis, si tu avais vécu à l'âge de 8 ans ce que j'ai vécu, à mon avis, tu ne me dirais pas ça. Voilà. Parce que souvent, au début, quand j'ai commencé la photo, pour le documentaire notamment, ils disaient, tu crois que tu es capable de faire ça? Mais...
Donc pour vous, ça a été aussi une expérience constitutive de ce que vous êtes devenu.
Évidemment,
ensuite.
Évidemment. Ça m'a donné
et
une force.
Et la photo que vous avez pratiquée, telle que vous l'avez pratiquée.
Oui, c'est ça. Et ça m'a donné une force parce que c'est original, quoi.
On va dire ça comme ça.
On va dire ça comme ça. Comme j'ai quelque chose en plus, quoi. C'est ça, ça m'a donné la force.
Et la peur?
La peur, maintenant, moi je vois pour... par exemple, au 14 juillet, il y a beaucoup de pétards et tout. J'ai la trouille. J'ai la trouille des coups de feu. Quand j'entends les pétards, c'est comme un coup de feu, quoi. Et jamais j'aurais été photographe de guerre. J'ai juste fait une fois, c'est le coup d'État au Mali à l'époque de Moussa Traoré en 91. Mais parce que j'aime beaucoup ce pays et tout. Et franchement, même au 14 juillet, j'ai la trouille, hein, avec les pétards. J'ai vraiment peur. J'ai très très peur. Et ça, c'est le son, hein, c'est le son du fusil, quoi, de la balle, quoi. Et ça, c'est resté complètement dans ma tête.
Il y a eu une exposition en 2014 à la Maison européenne de la photographie à Paris qui avait pour titre « Pince-moi, je rêve ». C'est souvent ce qui vous arrive, mais « Pince-moi, je rêve ».
Exactement.
Hein. Et elle s'ouvrait sur la photo d'une piscine.
Oui.
Cette piscine, c'est celle du cercle où vous avez été enlevé. Et on voit cette photo, elle est très étrange, cette photo, parce que c'est une eau croupie. La végétation a pris le dessus autour de la piscine. Il reste des restes d'un plongeoir en pierre. Est-ce que c'est là que vous avez enfoui vos cauchemars?
Alors, j'ai eu de la chance parce que j'ai des amis d'enfance qui étaient des enfants de planteurs aussi, qui ont été au Cambodge, mais avant les Khmer Rouges, hein, et qui m'ont dit, tu sais, Françoise, la piscine, elle existe encore. Et c'est une raison aussi pourquoi j'y étais, parce que je me suis dit quand même que la piscine existe encore, c'est quand même hallucinant. Et effectivement, j'y étais. À Tup, la piscine existe encore. Elle est telle que la photo dans mon livre et puis dans l'expo. Et il y a encore le plongeoir et il y a une vase parce que personne se baigne plus. Et je me suis dit effectivement quand je suis arrivée dans la piscine, je me dis mon histoire est enterrée là-dedans. Et bon, je vais la reprendre. C'est ça. Parce que la première chose que j'ai fait, c'est d'aller à la piscine.
C'est pour ça que c'était aussi la première photo qui ouvrait
l'exposition.
L'exposition, ça n'est pas la première photo de votre livre « J'avais 8 ans », mais elle est effectivement aussi dedans, on peut la voir. Votre ami et donc journaliste à Libération, Gérard Lefort, qui a fait tous les textes, quasiment tous les textes de vos très nombreux livres, Françoise Huguier, dit de vous que vous êtes une femme fondamentalement déplacée. Est-ce que c'est aussi du fait de cette histoire-là? Ça vous a déplacée?
Je pense, je suis pas comme les autres. Bon, déjà, j'étais un peu éduquée comme ça, parce que je suis bigoudaine. Je suis pas comme les autres, mais c'est vrai que cette histoire-là fait que, effectivement, je suis pas comme les autres. Je suis pas comme les autres. Moi, je voyais en pension, j'étais pas du tout comme les autres, quoi. Mais pas du tout, quoi. Et pour vous raconter une histoire, quand je suis rentrée en France, qu'on m'a mis chez les Bonnes Sœurs, j'avais une amie, Catherine Chenot, dont le père était ministre de Gaulle. Et il y avait un grand parc, et dans le parc, il y avait une espèce de tour en ruine. Et elle venait des Antilles, hein, sa mère était béquée. Et donc, alors les filles qu'on n'aimait pas, on faisait des petites poupées, et puis on les piquait. Oui, comme dans le vaudou, pour leur faire des choses méchantes.
Vous faisiez ça?
Oui, on faisait ça toutes les deux.
Alors,
On était un peu à côté de là.
Il y en a plein qui faisaient ça. Hein.
C'est ça, oui.
On a parlé de la captivité et de vous, prisonnière, aujourd'hui. Françoise Huguier, on se retrouve demain pour parler de l'apprentissage de la liberté, alors.
Voilà.
À demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Andreas Jaffré, réalisation Guillaume Baldi, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.